Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Un débrief ce soir avec Marjorie Paillon qui est avec nous. Salut Marjorie.
Hello.
Ravi de te retrouver, journaliste bien évidemment que vous connaissez. Et puis en face d'elle c'est Frédéric Simotel. Salut Fred.
Bonsoir François, hop là.
Voilà, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, qui débute dans ce métier, donc il ne sait pas où est le bouton pour
allumer
le micro.
Non, on n'arrête pas de me l'éteindre.
Moi j'ai la chance, on me l'avait préallumé des fois que...
Je soupçonne les gens en régie de...
Vous avez vu, on a quand même voilà, un travail compliqué, hein. Parfois il faut appuyer sur le micro, éteindre, enfin bon bref. Merci d'être là tous les deux, on va débriefer l'actu. Alors, une émission un peu particulière, je le disais, puisque ce débrief, ce sera jusqu'à 20h45, avec l'info éco comme d'habitude jusqu'à 20h30. Et puis dès 20h45, Jonathan Ross en interview. Alors, vous ne connaissez pas Jonathan Ross et vous ne connaissez peut-être pas Grok, sauf si vous êtes un fidèle de Tech & Co, parce qu'on en parle de temps en temps. Grok, c'est un peu, on va dire, la puce d'intelligence artificielle que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut. En gros, ce que fait Grok avec sa puce, c'est qu'il accélère en quelque sorte les réponses que vous avez lorsque vous tapez en fait un prompt sur l'IA générative. Et je vous invite à tester Grok, parce que c'est au-delà d'une puce, c'est aussi une IA que vous pouvez tester. Et vous allez voir, c'est incroyable. Vous tapez une question. D'habitude avec ChatGPT, on a toujours 2-3 secondes de réflexion avant que le texte commence à s'afficher. Là, Grok, c'est instantané et d'un coup vous avez tout le texte. C'est presque magique. On se dit mais comment font-ils ? Alors pour les cris, c'est cool, mais imaginez pour la voix. Imaginez pour l'intelligence artificielle et le vocal, et demain la robotique. Bref, il y a quelque chose avec Grok, et donc Jonathan Ross répondra à toutes mes questions tout à l'heure. On évoquera évidemment la régulation de l'intelligence artificielle, le fait qu'il veuille s'implanter en France, hein, il va nous le dire encore une fois, et pour être tout à fait transparent, cette interview a été enregistrée il y a un peu plus de 24 heures. Donc on vous la diffuse à partir de 20h45. Ben justement, on va commencer par la guerre des puces.
La guerre des puces qui n'en finit plus, qui rebondit. C'est vraiment des...
C'est incroyable.
C'est un épisode littéralement par semaine en ce moment. Et puis, tu parlais de Grok. Et c'est vrai, c'est important. On a envie de savoir ce que son CEO a envie de nous dire. Parce que c'est une boîte qui a été créée en 2016. Aujourd'hui, ils accélèrent et ils ont des ambitions qu'on dit parfois supérieures. En tout cas, sur leurs puces et leurs accélérateurs justement de semi-conducteurs à Nvidia. Avec Grok, on va entrer dans une nouvelle, finalement, littérature et dans des nouveaux acronymes pour parler de puces. Avec Nvidia, on parlait beaucoup de GPU, de processeurs graphiques. Cette fois-ci, on va parler de LPU.
C'est ce qu'on a révisé tout à l'heure avec Fred.
Pour le langage naturel.
Oui, parce que c'est compliqué. Il y a NPU, il y a LPU, il y a CPU, il y a GPU.
TPU chez Google. Et on en parlera avec Google dans un instant. Donc, chacun arrive avec son accélérateur super puissant de semi-conducteurs. Et tout ça, encore une fois, pour alimenter l'économie et les écosystèmes d'intelligence artificielle. J'allais dire, quel que soit leur modèle de langage réalité. Et ce que Grok essaie de démontrer, c'est qu'une start-up peut être plus puissante aujourd'hui qu'un groupe qui est valorisé 300 milliards de dollars. C'est absolument phénoménal. Donc, est-ce que Jonathan va réussir? Je l'appelle Jonathan directement, comme ça.
Va réussir. Tu vas voir, il est très sympa en plus.
Mais j'imagine bien. That's very American, tu vois, d'être aussi sympa. Ça, c'est un vrai enjeu et c'est vraiment la façon de voir aussi comment est-ce que chaque groupe, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, est en train d'essayer de réduire sa Nvidia dépendance. Parce qu'aujourd'hui, on est entré dans un monde où toute l'accélération de l'IA repose, on le dit souvent ici, évidemment sur l'infra-IA, sur le hardware, et donc a besoin de ces GPU Nvidia, mais qui commence à coûter très cher à tout le monde.
Non, et puis en plus, le marché est encore plus complexe parce que il y a d'une part les supercalculateurs avec tout un tas de nouveaux acteurs aussi. On parle Nvidia est dans les supercalculateurs, mais tu as des gens comme Cerebras, hein, on connaît pas bien cette entreprise, mais voilà, une boîte absolument incroyable avec une puce nanomètre sur laquelle il y a 4 000 milliards de transistors, enfin, un truc complètement sidérant pour les supercalculateurs. Ensuite, on a ces puces aussi qui sont dans les serveurs chez les hyperscalers, donc les Google, Amazon et tout ça. Et puis après, on a ces puces aussi qui vont se retrouver, enfin un peu là-dedans, mais beaucoup dans nos PC. On va, je pense que c'est ce qu'on va vivre dans les 18 prochains mois, c'est le renouveau un peu des PC. Bien parce sûr. Que ce que c'est de faire, parce que derrière tout ça, il y a tous les enjeux environnementaux de calcul. On parle beaucoup de edge computing, c'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'à un moment, voilà, l'énergie, parce qu'on se soucie un peu moins de ça. Hop, on balançait les calculs, on allait faire ça dans le cloud et c'était très bien, même si c'était assez loin, on s'en fichait. Là, on s'en fichait plus ou moins, mais on s'en. Mm-hmm. Voilà, c'était pas une grande problématique. Un peu plus que moi. Mais aujourd'hui, on essaie de rapprocher parce qu'on veut que les calculs soient encore plus rapides. On veut traiter des data, on veut consommer moins de requêtes. Donc, on se dit, il faut rapprocher les calculs de l'utilisateur. Et donc, du coup, on va avoir des PC un peu plus puissants qui vont pouvoir peut-être aller chercher des données dans différentes bases de données, mais qui vont faire tourner ça un peu plus en local ou au moins en local dans un réseau d'entreprises. Et là, du coup, c'est un nouveau type de composant aussi qu'il va falloir avoir. Et derrière tout ça, ce qui est hyper intéressant dans ce marché des composants, c'est il y a évidemment les défis technologiques, on en parle, voilà, et l'infiniment plus petit. Il y a les défis, et puis la guerre entre tous, quelle technologie, LPU, NPU, GPU, tout ça. Il y a les technologies, il y a les défis environnementaux, parce qu'il faut consommer de moins en moins d'énergie, parce que ça va être vraiment ça aussi, ouais. Le jeu. Et puis, il y a tous les défis de souveraineté, de sécurité, de souveraineté, de savoir, s'il n'y a que les Chinois et que les Américains, nous, au milieu, est-ce qu'un jour, les Américains peuvent, comme ils le font avec les Chinois, dire, attendez, c'est plus là.
On n'est pas totalement absent, quand même.
Ouais. Non, oui, mais tu vois,
il y a
beaucoup de composants. Si un jour les Américains disent, attendez, ceux-là, on attend un peu pour les vendre aux Européens.
On va garder une petite exclue.
Dans les révolutions, les étapes justement que tu abordes là, il y a aussi la composante géopolitique qui est absolument crucial, parce
surtout
qu'on le voit
en ce moment.
Absolument. On le voit avec l'administration Biden qui a prorogé, même si j'ose dire, des décisions de l'administration Trump, vis-à-vis de la Chine, notamment sur la vente de certaines technologies. Nvidia en a fait les frais sur une partie de ses puces. L'administration américaine est aussi en train de faire du soft power et un peu du lobbying auprès des administrations des Pays-Bas, par exemple, ou du Japon, chez ASML d'un côté, chez Nikon et Canon de l'autre, pour qu'il n'y ait pas non plus certaines technologies qui soient vendues à la Chine, notamment en matière de lithographie, mais on va y revenir dans un instant. La lithographie, c'est ultra important parce que c'est ce qui permet, c'est la technologie en fait qui permet de pouvoir graver encore plus rapidement et de façon encore plus précise des puces de moins de 14, moins de 7, moins de 5 nanomillimètres. C'est ce qu'on est en train de
faire. C'est-à-dire qu'on les imprime carrément.
Exactement. Quand tu parlais, Fred, de ce défi de l'infiniment petit, il est réellement là. Mm-hmm. Et il me semble aussi que, mais j'ai peut-être dû me tromper, sorti de la crise du Covid, on a un commissaire européen qui s'appelle Thierry Breton qui nous avait dit qu'on avait un défi en Europe. Et dans toute cette réindustrialisation européenne et ce réarmement, alors c'est un peu plus macroniste comme propos, mais ce réarmement tech et numérique, mm-hmm. toujours dans la droite ligne d'une souveraineté industrielle et numérique européenne, on avait aussi ce défi d'aller graver du microprocesseur, de la puce, de moins de 5 nanomillimètres. Je ne sais pas où on en est. C'est une petite question comme ça.
Je crois qu'on n'y est pas encore.
Non. Parce qu'il y a encore une fois, il y a toujours cette notion de graver plus petit et de consommer moins d'énergie. Oui, c'est un peu compliqué. Et il y a un autre enjeu aussi derrière tout ça. C'est l'enjeu de standardisation. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, n'importe, que l'on soit Nvidia, que l'on soit Grok, que l'on soit Intel, que l'on soit ARM, tout ça, on peut pas se permettre de partir tout seul dans une voie. Il faut qu'à un moment il y ait une certaine interopérabilité, il faut qu'il y ait des normes, des réglementations et tout ça, comme il y a eu à l'époque, même si on avait un Intel face à un AMD, il y avait des choses qui étaient réglées par
X86 notamment,
voilà. Il y avait quelques couches qui étaient normalisées parce que ils mutualisent un peu tout ça, et puis que derrière, pour des clients, se dire imagine, je m'embarque avec Nvidia et puis Nvidia va multiplier par 4 ses prix un jour.
Et
comment je fais pour rebasculer vers un autre fournisseur? Enfin voilà, il y a des choses, et ça aussi c'est quelque chose d'assez important, c'est que tous ces c'est toujours ça qui est paradoxal, notamment dans la technologie, c'est que malgré leur concurrence, quelque part ils doivent quand même discuter entre eux pour dire tiens, bah, ils font partie de grandes instituts de l'I3E.
Enfin, oui, ils ont malgré tout une ligne de standard à respecter.
Ouais, à respecter, parce que sinon, alors il y en a un qui peut aller plus vite et qui peut tirer le standard et dire bon, écoutez, à vous de suivre. Et puis les brevets, parce que derrière, il y a des brevets, il y a des coûts, enfin des royalties, des fees qu'on va. Donc c'est vraiment passionnant. Et ce à quoi il faut faire attention, je parlais de souveraineté tout à l'heure. Alors on a des ST Micro, on a des Soitec, on a des Calray, on a des startups qui sont en train, on a le quantique aussi, ça serait un autre domaine aussi après. Mais attention de ne pas se laisser trop vite avoir avec des Américains d'un côté, des Chinois. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important. Alors on a ASML pour les lithographies, mais d'avoir des centres de production, si TSMC, alors qui s'installe en Allemagne, bon, ce serait mieux que s'installe en France, mais même qui s'installe en Allemagne, c'est important.
Avoir un peu la même stratégie que les Gigafactory des batteries, finalement.
Ouais, voilà,
c'est vrai qu'en France, on accélère là-dessus. On va en avoir 4 ou 5.
En l'occurrence,
ne pas avoir aussi.
Il y a un moment où tu vas aussi avoir besoin de ces accélérateurs, de ces boosters de semi-conducteurs. Tu vas aussi en avoir besoin dans les batteries électriques.
Ouais.
Donc, c'est l'ensemble d'un écosystème qui a besoin d'être littéralement boosté.
On ne parle pas beaucoup d'STMicro, qui est quand même une boîte européenne qui fait des processeurs.
Qui travaille pour Apple.
Qui travaille pour Apple, etc. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, quand on évoque les microprocesseurs. Mais...
Parce que là, on est dans ceux qui sont dans les architectures, qui sont la couche plus haute.
Ouais, mais ils fabriquent aussi des puces, ils sont dans les voitures, dans les iPhones.
Tous les capteurs,
ils font plein de choses aussi. Hein. Donc on a quand même un savoir-faire européen.
Oui, mais pas dans le côté du traitement de la data, du traitement de l'image, du traitement de
la langage, grosse puissance de calcul.
Voilà,
tu citais de Soitec par exemple, ASML aussi, on sait apporter la couche qui nous permet d'aller chercher la précision sur ces plaques de silicone et aller chercher. In fine, CLPU, CGPU, produire cette partie-là du composant. Mais on n'a pas encore la société
La plus graphique, on l'a pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'NVIDIA est attaqué de toutes parts, finalement, et fait beaucoup de jaloux. Hein. Alors, NVIDIA, aujourd'hui, le tout-puissant, tout le monde est à genoux d'NVIDIA pour acheter ses puces, ses cartes graphiques, en fait, ses GPU. Mais on voit que tout le monde essaie de se désolidariser, et notamment ceux qui ont de l'argent, les plus grands, essaient de se désolidariser.
Ce serait intéressant un jour d'avoir...
Microsoft, Google.
D'avoir un historien autour des puces, parce que faut savoir qu'en 2015, Nvidia a failli mourir. Hein.
Oui.
Et heureusement, ils ont fait les rachats qu'il fallait, tout ça. Et puis,
c'est une boîte qui a toujours été très agile et qui a pivoté. Hein.
Ouais, c'est assez incroyable. Et même leurs puces aujourd'hui, c'est des puces de calcul vectoriel et tout ça, c'était pour du jeu vidéo, les beaux graphismes. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un qui a dit, mais tiens, pour faire des calculs parallèles comme l'IA, mais c'est formidable. Donc, ils sont partis là-dessus. Ils ont eu des critiques à un moment en leur disant, oui, mais attendez, votre puce, elles sont pas optimisées pour l'IA parce qu'elles sont faites pour les jeux vidéo. Bon, là, on a vu la dernière version, enfin, il y a 15 jours, c'était la grande messe NVIDIA, on a vu que
ils ont commencé à s'aligner.
Non, et surtout, il y a une vraie vision de Jason Wang sur ce qu'est un écosystème des intelligences artificielles. Encore une fois, de la couche de l'infra, du hardware jusqu'au software. C'est fondamental pour pouvoir justement porter une entreprise aujourd'hui comme NVIDIA là où elle est. Aujourd'hui, NVIDIA, sa part de marché, c'est 80% de mondial des ventes justement de ces GPU et de ces boosters de microprocesseurs. Donc c'est extrêmement important. Donc évidemment, tout le monde cherche une façon de réduire sa NVIDIA dépendance. Ça, on le disait déjà. Après, chacun essaie de définir son standard. On a parlé de LPU chez Grok. On a parlé de TPU chez Google. Mais c'est encore pour d'autres raisons, parce que là, ils vont aller chercher Amazon notamment, et pas que, et Microsoft aussi en partie sur le cloud, pour encore une fois montrer qu'il faut bien à un moment donné mettre aussi ses volumes de calcul et ses data quelque part, et ça se fait bizarrement dans les clouds et dans des data centers. Et puis tu as quand même chez Meta aujourd'hui cette proposition qui vient, on a l'impression que ça vient quand même un peu en réaction les uns aux autres. Donc Google dévoilait Axiom il y a quelques jours à peine, Meta dévoile Artemis. On s'appelle Artemis, du coup, chez Meta, c'est très beau, parce que Artemis est quand même la déesse de la guerre dans la mythologie grecque.
Guerre de l'IA est ouverte.
Oui, mais en fait, ce qui est intéressant aussi en élément de langage, c'est qu'aujourd'hui, je regardais un petit peu la façon dont chacun annonçait sa nouveauté et son lancement. Tout le monde te dit, mais c'est certainement pas une guerre. Au contraire, on est là pour ouvrir la concurrence, pour que ce marché puisse grossir.
C'est pas la mission sur la Lune aussi qui s'appelle Artemis?
Absolument, t'as aussi une mission lunaire qui s'appelle Artemis. Sauf qu'on est quand même même vraiment positionné dans une guerre où chacun est en train de fourbir ses armes. Mark Zuckerberg, il n'a pas perdu l'idée de commander 300 000 GPU à Nvidia. Ce qui va lui coûter quand même extrêmement
cher. Ce qui est marrant,
cher.
C'est la
mais
façon
il a besoin
dont l'IA,
de les compléter.
Ouais, mais ce qui est marrant, c'est la façon dont l'IA a relancé ce marché. Il existait, ce marché, mais a mis ce marché au devant de la scène. Mm-hmm. C'est-à-dire, parce qu'avant, on parlait des puces, on disait, jamais on aurait, Nvidia sortait sa nouvelle puce, on en aurait fait une brève.
Oui, c'est sûr.
Et là, aujourd'hui, non, parce que c'est un enjeu technologique, stratégique, géopolitique, de souveraineté, environnemental.
On en parlait déjà un peu l'année dernière, il y a deux ans, rappelle-toi, avec le minage de Bitcoin.
Oui, exactement.
C'est vrai que, Nvidia a toujours été très agile, hein, et on le doit à son patron emblématique. Ils étaient au début sur les cartes graphiques. Après, ils se sont dit, bon, c'est un marché quand même de niche. On va pas beaucoup grossir avec ça. Tiens, on va aller du côté des voitures. Là, ils ont commencé à faire des processeurs pour les voitures. On parlait déjà de la voiture autonome. Finalement, la voiture autonome aussi, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. C'est un peu passé à la trappe. Le minage de Bitcoin et puis après l'intelligence artificielle. Donc en fait la base de ce qu'il fait, cette puissance de calcul, à chaque fois il a réussi à l'adapter en fait à la technologie du moment. Et ça c'est vraiment très très fort.
Et puis à maintenir des coûts assez élevés qui forcent les gens à faire de l'argent. Et malgré tout, et tu le dis avec Jonathan Ross qui sera en plateau là qui sera dans cette interview dans trois quarts d'heure, il y a de la place pour se faufiler pour un petit. Alors après, il fait le design, hein, c'est des industries faiblesses. Il faut qu'il trouve ensuite ses fournisseurs. Après, ce dont on se rend pas compte non plus, c'est que tous ces changements de technologie, on passe pas du. Je vais arriver sur le marché, je vais avec mes serveurs, je m'appelle. Alors quand je m'appelle que Amazon, Google, Microsoft, ça va, je peux passer des commandes un peu lointaines. Mais on ne se rend pas compte que souvent, les carnets de commandes sont assez pleins et qu'aujourd'hui, je veux aller chez Nvidia, je suis un nouvel acteur, je veux aller chez Nvidia, j'ai plein d'argent. Je vais chez Nvidia pour dire, écoutez, je m'appelle Aramco. Et puis, j'ai des super calculateurs pour calculer la production de pétrole, tous ces trucs-là. J'ai vraiment plein d'argent. Je vais arriver pour dire, tiens, finalement, moi, je veux mes puces à moi. Je vais arriver chez Nvidia, j'aurais beau mettre plein d'argent sur la table, vont dire, oui, alors attendez, il y en a pour. Il y en a pour 15 mois, il y en a pour 15 ou 17 mois.
Voilà, on reviendra sur ce sujet de la, on va dire, le côté indispensable aujourd'hui de cette puissance de calcul des processeurs avec notre invité Jonathan Ross. Ce sera aux alentours des 20h45. Interview exclusive donc. Mais auparavant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet parce que c'est vrai que le temps tourne et l'actualité est plutôt riche avec notamment ce projet de loi SREN qui a été définitivement adopté. C'était hier, on en parlait déjà hier dans Tech & Co. On en sait un petit peu plus sur la manière dont on va pouvoir, j'allais dire pister, mais en tous les cas vérifier si, lorsqu'on va sur un site pour adultes, on a plus ou moins de 18 ans. Parce que c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est que voilà, vous allez sur des sites, on va dire, populaires pour adultes, il suffit de cliquer « oui, j'ai plus de 18 ans », et puis après, c'est le buffet à volonté, si je puis dire. Là, maintenant, il y a une volonté de la part de l'ARCOM de mettre en place un système de carte bancaire. C'est-à-dire que vous rentrerez un numéro de carte bancaire, votre numéro de carte bancaire. Évidemment, on ne vous retirera pas d'argent, mais c'est pour vérifier que vous avez 18 ans.
Alors, c'est le serpent de mer absolu d'Internet. La façon dont les utilisateurs mineurs peuvent vraiment, sans le faire exprès, accéder à des sites pour adultes. En l'occurrence,
ça
a toujours été
Louis, bouche-toi les oreilles.
Et même du côté des plateformes, finalement, quand on demande aux réseaux sociaux de vérifier l'âge des utilisateurs et des utilisatrices pour vérifier qu'ils ont bien plus de 13 ans ou plus de 15 ans avec la loi française et la SREN pour pouvoir s'inscrire sur un réseau social, toutes les plateformes diront « Mais monsieur l'agent, je peux rien faire, c'est du déclaratif. Donc si l'utilisateur qui veut s'inscrire me dit « Oui, j'ai plus de 15 ans, oui, j'ai plus de 18 ans », je suis obligé de le croire. » Le Royaume-Uni, dans la façon dont ils ont updaté aussi leur RGPD-like pour les mineurs, a essayé d'avoir des actions très concrètes sur la vérification de l'utilisateur. Ils se sont cassés les dents, ils ont retiré, ils ont fait un rétropédalage magnifique sur le sujet. Énormément de pays ont essayé de le mettre en place. Là, l'ARCOM nous dit OK. La SREN ayant été votée avec les déboires qu'on connaît, puisque retoquée par la Commission européenne pour une raison toute simple. On ne peut pas contrevenir aux lois d'un pays État membre de l'Union européenne, donc on peut appliquer cette loi en France, en dehors de l'UE, mais pas aux autres pays membres de l'UE. Oui.
C'est quand même assez savoureux.
J'avoue, c'est un compte.
C'est savoureux.
Mais notamment dans l'histoire là qui nous occupe, ça veut dire que pour Pornhub, pour
YouPorn, pour tous ces...
en l'occurrence, pour X vidéos, j'ai vérifié hein, la
sécurité de
la nationalité. Non, pas les sites.
Ah bon, Marjorie, attention.
J'ai vérifié la nationalité des propriétaires
des
sites. En France, les trois sites porno les plus utilisés, c'est X Video, Pornhub et Stripchat. En l'occurrence, X Video appartient à une holding tchèque. Pornhub, c'est Ilo et c'est luxembourgeois. Stripchat, c'est Technus et c'est Chypriote. Ce sont trois États membres contre lesquels l'ARCOM ne pourra pas imposer.
Tu veux dire par là que les trois sites les plus populaires, gratuits,
l'ARCOM ne pourra
avec
pas
du
leur
contenu
imposer
pour
de
adultes.
Vérifier l'âge des utilisateurs pour savoir s'ils sont mineurs avec la carte bleue.
Donc
ou pas.
Ça continuera toujours. Je clique sur oui, j'ai plus de 18 ans et j'ai droit.
Tu veux accéder au site de Marc Dorcel. Là par contre, oui, il faudra rentrer ta carte bleue et on pourra vérifier si tu es majeur ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on marche sur la tête.
On se rend compte que c'est. Que vraiment.
On continue à marcher sur la tête en l'occurrence.
À part communiquer, ça ne sert à rien finalement.
Alors, t'as aussi une idée de gradation. Donc l'ARCOM dit dans un premier temps, là dans les médias, on propose cette solution avec la carte bleue pour vérifier si l'utilisateur est en âge d'avoir une carte bleue et donc s'il est majeur. Je rappelle qu'il y a des cartes bleues pour ados qui démarrent à partir de 16 ans, donc voilà. Bon, c'est encore autre chose. Et d'ici 6 mois, on va proposer une autre solution technologique beaucoup plus sûre. On attend de savoir.
Mais pour quel site ?
Pour ces fameux sites pornographiques, parce que en l'occurrence, c'est une affaire qui
Mais hébergé en France ou même pour l'Europe ?
Ce sera alors je pense que du point de vue de la Commission européenne et du régulateur européen, ce sera toujours la même problématique. Tu ne peux pas réguler d'autres pays que toi en Union européenne si les États membres ne sont pas d'accord.
Moi, je pense qu'il faudrait combiner parce que le but c'est de décourager. Tu sais, c'est comme contre les cambriolages. On peut pas empêcher
un cambriolage. Oui, tu peux pas éradiquer le cambriolage à 100%.
Si on met une porte blindée, une alarme,
des caméras,
on a un gardien qui est en bas de l'immeuble, des capteurs, des machins. Si après dans la maison, d'accord. Enfin bon, voilà. On va retarder tout ça. Et pour moi, aujourd'hui, par rapport aux mineurs...
T'as oublié le chien.
Oui, le chien, oui. Et les petits robots aussi, maintenant, qui peuvent
se... Les petits robots.
Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que, par rapport aux mineurs, c'est là où il faudrait mettre plein de choses. Et mettre la reconnaissance faciale, leur demander la carte bancaire, essayer de voir tout ce
serait de la reconnaissance faciale pour aller sur un site porno, mais ça passera jamais, en fait. C'est quelque chose d'inimaginable.
Alors, vous souvenez, il y a quand même...
Autour de l'IA, dans l'usage, dans tout ça, on sait reconnaître aujourd'hui des habitudes d'utilisation, on se rend compte... dans un foyer, tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même, connexion à 3h de l'après-midi, tu vois, il y a aussi tout ça, de voir que les IA peuvent reconnaître ça, de dire à 3h de l'après-midi.
L'IA pourrait dire, il y a, tiens, une connexion suspicieuse dans le foyer, à telle heure.
À 3h de l'après-midi, pourquoi ? Alors, envoyer un message et dire, est-ce que vous êtes bien l'utilisateur lambda ? Envoyer un message au propriétaire. C'est plein de petites choses. Alors, il faut mettre tout ça en place, hein,
du pistage, ça, finalement.
Les associations.
Mais est-ce qu'on veut vraiment le combattre?
C'est clair. D'un côté, il faut essayer de protéger au maximum la liberté de l'individu, qui fait partie de notre République et de notre vie, finalement. Et de l'autre côté, malgré tout, trouver une solution pour éviter qu'un enfant de 14 ans tombe, comme tu le dis, accidentellement sur des sites porno.
Oui, parce que et derrière, on est dans un vrai enjeu de sociétaux, c'est le comportement des hommes, des femmes vis-à-vis des uns des autres et tout ça. Ceux qui pensent que les sites porno, c'est la vie de tous. Tous les jours.
La première chose, c'est qu'on retombe sur le débat qu'on a déjà eu sur ce plateau sur l'anonymat en ligne, qui n'existe pas, parce que là tout va bien. Mais c'est la même problématique en réalité. Encore une fois, ce sont des serpents de mer aussi vieux qu'Internet. Ça fait 30 ans qu'on essaie de régler le problème, ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, tu auras toujours...
Et aucun pays n'y est arrivé, hein.
Aucun pays n'est arrivé. Tu auras toujours des associations de liberté en ligne qui sont dans leur rôle, à juste titre, et qui disent, attention, il y a des dérives potentielles à l'utilisation de ces technologies pour vérifier l'âge d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, donc non, on ne peut pas les mettre en place. Tu as des gouvernements et des régulateurs et des régulatrices qui sont aussi dans leur rôle en disant, mais il faut qu'on réussisse à trouver une solution. Et tu as des plateformes par ailleurs, une industrie qui n'a pas très envie d'aller très vite pour trouver des solutions par ailleurs. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez...
Il y a des contrôles parentaux qui pourraient être mis en place.
Il y a des contrôles parentaux qui peuvent être mis en place, mais il y a un moment où dans l'apanage de solutions dont on débattait au moment des débats de la SREN avant qu'elle soit votée, on envisageait que France Connect puisse être l'outil d'authentification pour aller sur un site pour adultes.
Tu déclares tes impôts.
Et bonjour. Et je vis aussi sur Pornhub. De toute façon, j'ai pas à le faire puisque Pornhub, de toute façon, est luxembourgeois.
Oui, donc il n'y a aucun problème.
Donc tout va bien. Donc on a quand même un vrai souci avec ça. À un moment, il va falloir trancher. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, je le dis tout de suite.
Mais je trouve que quand même, par rapport à ce que dit François, cette annonce autour de la carte bancaire, c'est des petits pas.
Oui, c'est des petits pas, bien sûr. Parce que même si tu peux avoir une carte bancaire à partir de 16 ans, c'est peut-être moins grave de voir du contenu pour adultes à 16 qu'à 13 ou 14. Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, ça sera peut-être un nombre infime, parce que l'immense majorité des possesseurs de cartes bleues ont 18 ans. Donc, tu vois, c'est vrai que tu limites quand même la casse.
Sauf que le
Mais c'est que pour les sites français, et la plupart des jeunes ne vont pas sur les sites français, parce que ces sites-là, les Dorsel, etc., sont payants déjà.
Donc, de toute façon.
Est-ce qu'il n'y a pas le rôle des opérateurs?
Théoriquement, on ne peut pas y accéder.
Théoriquement, on ne peut pas y accéder.
Est-ce qu'il n'y a pas le rôle des opérateurs? Ils réussissent bien à couper le.
Pourquoi pas? Tu verrais. Mais l'impopularité d'un opérateur qui lance ça, il faudrait que tous les opérateurs se mettent de concert et lancent une solution commune.
En l'occurrence, ça fait partie des prérogatives de l'ARCOM. C'est-à-dire que l'ARCOM peut demander à un opérateur telco de bloquer le site. S'il n'est pas en train de respecter le fait de bloquer un utilisateur mineur. Donc ça
ils font déjà avec
partie.
Les sites pirates,
oui, complètement.
Alors, de films,
absolument. Les sites torrents là, ils ont fermé. Là.
Et ça marche très bien en l'occurrence sur la partie A2P qui a été récupérée par l'ARCOM. Ça a fait ses preuves. Et ça a fait ses preuves en matière de pédagogie aussi.
Bon, on n'a pas encore trouvé la solution. Mais on va suivre ça de près, tel de fin limier que nous sommes. Marjorie Fred, bientôt 20h30. On revient dans quelques minutes, juste après l'info écho. Encore un titre d'actu à évoquer. Vous savez qu'on va pouvoir réparer bientôt nos iPhones avec des pièces d'occasion, dis donc. C'est pas beau ça pour la planète. Merci Tim Cook. On va vous expliquer comment ça va marcher dans quelques instants, juste après de l'info écho. Et merci de nous suivre. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et juste après ce petit bout de débrief aux alentours des 20h45, ce sera notre grande interview de Jonathan Ross, le CEO de Grok, la boîte d'intelligence artificielle qui monte. Gageons que dans quelques mois, j'en suis persuadé, ce personnage sera tout aussi connu que Sam Altman, sans doute. Frédéric Simotel, Marjorie Paillon pour débriefer l'actu tech et Apple donc, qui a dégainé cette information qui est tombée il y a quelques heures, le fait d'ouvrir un petit peu ces chakras concernant la réparation des iPhones. C'est vrai que la réparation des iPhones, ça a toujours été un truc un peu compliqué. Il fallait avoir une espèce de sourcing des pièces détachées que vous alliez installer sur votre iPhone cassé. Il fallait que ce soit des pièces qui étaient validées par Apple. Alors, tout ça ne va pas trop changer. Ce qui va changer, en fait, c'est le fait qu'on va pouvoir maintenant, dorénavant, à partir de l'iPhone 15 et 16 qui sortira l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais en septembre prochain, eh bien, réutiliser des pièces d'occasion. Mmh. Et ça, c'est cool.
Mais alors, du coup, des promesses, parce que Étienne ne pourra jamais faire réparer dans ces conditions.
Parce qu'il a un iPhone 12.
Dommage pour lui.
C'est à partir du 15.
C'est à partir du 15.
Mais bon, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire.
J'ai pas pu le faire réparer, donc maintenant j'ai un 15, je vais pouvoir le faire. Ça me fait très plaisir.
Je vais le faire tomber par terre pour voir.
On va peut-être attendre encore un petit peu, ce serait sympathique. Quelques mises à jour, tout ça. Parce qu'en fait, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est le fait que Apple, finalement, pour une fois, prenne les devants. Je ne sais pas si vous en souvenez, messieurs, mais en 2020, une association qui s'appelle HOP, qui lutte contre l'obsolescence programmée et qui est française, Cocorico, avait porté plainte contre Apple. Le parquet de Paris s'était saisi du dossier et avait condamné Apple à payer 25 millions d'euros d'amende pour justement non-réparabilité des batteries. Et cette association, elle posait tout son argumentaire sur ce qu'on appelle la sérialisation. La sérialisation, c'est le fait en fait de lier le numéro de série de l'iPhone au numéro des pièces qui le composent. Et qui fait que du coup, dès que tu veux changer une pièce, c'est exactement ce que tu décrivais, tu es obligé d'en référer à Apple, parce que, je suis très très anti-Apple ce soir, parce que il faut qu'Apple puisse avoir une traçabilité de ces pièces qui sont opérées. Mais on pense aussi qu'avec ces phénomènes, avec cette sérialisation, tu as aussi une possibilité de bloquer, par exemple, ton iPhone à distance. Quand une mise à jour ne se fait pas, ou qu'elle entraîne une batterie qui va marcher un peu moins rapidement, ou des fonctionnalités qui vont être un peu plus lentes qu'à l'accoutumée, que tu te dis c'est peut-être le moment de la fin de vie de mon iPhone, il va falloir que je change de génération d'appareil et de smartphone, et bien c'est exactement ce qui est en jeu dans la sérialisation. C'est quasiment de l'obsolescence programmée en bande organisée, quoi.
Fred, moi, ça me fait penser un peu au marché de l'automobile. Quand on a un accident, par exemple, ou alors, je sais pas, moi, vous avez une pièce de votre voiture qui flanche, votre voiture ne marche plus. Souvent, le garagiste vous propose deux solutions. Soit une pièce neuve à l'identique, mm-hmm. soit une pièce de réemploi, comme on dit. C'est-à-dire que c'est la pièce de votre mm-hmm. voiture qu'il faut. Sauf que c'est une pièce d'occasion qui a été reconditionnée, qui est comme neuve, mais qui va coûter 30 à 40% moins cher. On a l'impression que finalement, là, Apple ne s'inspire pas de ça, mais en tout cas, c'est, pour qu'on comprenne, c'est à peu près la même chose.
Bah, Apple, ils sont sur un marché ultra concurrentiel aussi aujourd'hui, donc... Et là où ils avaient encore beaucoup de marge, enfin ils ont encore beaucoup de marge, hein, il y a les fans d'Apple, mais peu à peu, ils voient quand même beaucoup de gens qui commencent à se détourner, et pas forcément par rapport au prix, mais par rapport à tout un tas de petites choses. Oui, quand on a un téléphone d'une autre marque, eh bien on peut le réparer plus facilement, on peut changer la batterie, on peut acheter une batterie, la changer plus facilement. Et là, peu à peu, en plus aujourd'hui, on a, bien qu'on ait commence tous quand même à avoir une petite conscience environnementale et se dire, je préfère essayer de réparer.
Il y a la conscience du porte-monnaie aussi.
Non, mais c'est
iPhone, c'est 1000 balles, quoi, minimum.
Et aujourd'hui tu vois, discuter avec des gens des marques Fnac Darty, disaient qu'aujourd'hui, ils voient, c'est encore petit, mais ils voient des gens, enfin voilà, comme vous et moi, qui, à partir d'un tuto sur YouTube, réparent leur machine, tout ça. Donc on y arrive peu à peu, et après on se dit, finalement, en plus, pour l'avoir fait moi une fois sur un petit bout d'écran de téléphone sur un iPhone 13, quand c'est bien réparé, tout ça, une certaine fierté, se dire, tiens, en plus ça se voit pas du tout, donc il y a ce côté fierté. Et je pense qu'Apple, la concurrence, quand ils commencent à voir les concurrents qui nous disent, nous, vous pouvez, en plus en général, qu'est-ce qu'on change? C'est l'écran, c'est peut-être on a cassé
la batterie.
C'est la batterie, voilà.
La batterie, c'est le truc qu'on change en premier. C'est pas la puce M3, c'est ce qui s'use.
Voilà, c'est pas la puce M3 à l'intérieur et les transistors qu'on va changer. C'est la batterie, c'est le plus gros, c'est la batterie. Mm-hmm. Ça peut être l'écran ou ça peut être
le capteur photo à l'arrière.
Photo derrière. En général, c'est ça. Ouais. Et puis un petit coup de nettoyage. Ou alors les connecteurs, peut-être parce qu'il a pris un peu d'eau, choses comme ça. Donc c'est des choses assez, entre guillemets, assez simples. Et là où les autres le font, Apple ne permettait pas de le faire ou le permettait sur des conditions et à des prix complètement dingo. Enfin, changer un écran chez Apple, c'est 300 euros. Enfin,
c'est exorbitant. Si t'es sorti de l'Apple Car, si t'es encore sur Apple Car, ça peut être un petit peu.
On voit l'habitude. Elle a bien étudié le sujet.
Derrière, on voit que les solutions d'appareils reconditionnés, les batteries et tout ça, c'est intéressant, mais parfois c'est un peu la loterie. Hein.
Oui. Parfois, on tombe sur un appareil qui n'a pas été bien remonté.
En plus, c'est une garantie back market, c'est pas une re-garantie Apple que l'on relance. Donc voilà, je pense que Apple se rend compte aussi de ça.
Ouais. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est que malgré tout, avec cette nouvelle mesure, Apple va combattre le vol de smartphones.
C'est un argument qui est très intéressant.
Je trouve que c'est très intéressant.
D'Apple que le Parisien a interviewé, parce que aujourd'hui, tu as presque envie de dire que les éléments de langage d'Apple pour justifier un lancement, une stratégie, tu peux quasiment les préécrire. Pourquoi est-ce que justement ils lancent cette nouvelle politique en matière d'économie circulaire et de réparabilité ? Sécurité et fiabilité, nous dit ce vice-président d'Apple en charge justement des produits et des composants. Et il nous dit que la réparabilité, c'est pas le but qui est justement escompté par Apple, mais c'est la longévité qui compte. Donc c'est extrêmement intéressant. Et l'argument de aujourd'hui, on va pouvoir mieux aider les forces de police à travailler quand votre iPhone est volé ou quand certains composants ne peuvent pas être...
Parce que rappelons-le, quand par exemple vous faites piquer votre smartphone, votre iPhone, aujourd'hui il est très compliqué, voire quasiment impossible de le resetter et de le faire repartir. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils le démontent et ils vendent les pièces détachées. Et bien là, avec cette nouvelle mesure, on ne pourra pas mettre par exemple un écran d'un iPhone volé sur un iPhone officiel, on va dire. Parce que dès que vous allez brancher cet écran issu d'un iPhone volé, l'iPhone va détecter et va désactiver la pièce. Donc ça va aussi peut-être enquiquiner encore plus les voleurs d'iPhone.
Et leur argument, c'est de dire qu'on ne veut pas encourager un marché parallèle sur les pièces détachées.
On arrête là.
Ok.
Il est 20h42. Merci beaucoup Marjorie. Marjorie Paillon, merci Fred Simotel. Et vous restez avec nous. Dans un instant, juste après cette petite pause, comme promis, ce sera notre longue interview grand format du CEO de Grok. Jonathan Ross sera sur notre plateau. Et vous allez voir, il a une vision de l'intelligence artificielle qui est passionnante. On va évoquer tous les sujets liés à l'IA, bien évidemment. La concurrence avec Nvidia. Est-ce que l'IA va supplanter l'humain demain? Et est-ce que l'IA aussi va consommer toujours autant d'énergie? Bref, tous les sujets d'actualité, on va dire, de l'intelligence artificielle, on les évoque dans un instant avec cette interview exclusive. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.